Je suis Solange Siri. Je souhaite créer par ce podcast Maman au-delà de l'inceste une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur. Que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. Dans cet épisode de Maman au-delà de l'inceste, j'ai l'immense joie de partager un moment passionnant avec Virginie Peyret, maman de deux enfants. Elle est l'auteure du livre témoignage La Barque Noire, aux éditions Les Presses du Midi. Un livre qui parle de l'inceste que son frère de 6 ans, son aîné, lui a fait subir pendant 10 ans. C'est surtout un livre plein d'espoir et de force de résilience que je te conseille de lire si, justement, tu te dis que la paix et le bonheur ne sont pas possibles quand on a vécu l'horreur de l'inceste. La rencontre avec Virginie a été passionnante. Lors de cet échange, j'ai retrouvé toute la puissance que je pressentais déjà dans le livre chez cette femme à la fois pleine de combativité, d'engagement, d'humilité, d'humanité et de lumière. Dans l'épisode, Virginie évoque son chemin de libération à travers les différentes thérapies qui l'ont aidée, une résilience qui se prolonge et se sublime dans ses actions passionnées de militantisme et d'engagement dans la prévention et sensibilisation des violences sexuelles auprès de professionnels de la santé, des brigades de mineurs et des avocats. Virginie Peyret évoque comment, depuis le cataclysme qu'a vécu sa famille lors de ses révélations, elle n'a rien lâché pour amener ses parents à prendre conscience de leurs responsabilités avec plus de paix, au point que sa mère, puis son père, s'engagent aujourd'hui auprès d'elle dans ses actions militantes. Malgré tout, cette femme, cette maman de 46 ans, reste lucide sur le chemin qui lui reste à parcourir pour apaiser totalement la colère qui peut parfois encore la submerger et qu'elle s'efforce de ne surtout pas transmettre ou imposer à ses enfants. La paix, la lumière et la sérénité sont possibles, même quand on a vécu l'horreur de l'inceste. C'est le cœur du message que Virginie veut faire passer dans son témoignage ici. Je te souhaite une très belle inspiration et une belle écoute. Alors bonjour Virginie.
Bonjour Solange.
Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment touchée de t'avoir ici sur le podcast Maman au-delà de l'inceste.
Bah écoute, avec grand plaisir, mais je suis ravie d'être là aussi.
Alors, pour remettre un peu dans le contexte, tu vas nous parler de toi, mais je voudrais déjà partager à quel point je suis... émue parce qu'en fait, on s'est rencontrés un petit peu par hasard, enfin, moi je trouve, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais parce que j'avais publié il y a quelques mois de ça, c'était au mois d'août, je crois, une photo sur laquelle, donc bien sûr, avec l'hashtag MeTooInceste, et tu m'avais contacté en message en me disant, mais vous habitez à Cassis, et j'ai trouvé ça très drôle, et à partir de là, on a échangé, on s'est un petit peu suivi sur les réseaux, et je trouve ça super. Donc toi, parce que tu habites à Cassis, tu m'as posé cette question, c'est ça ?
Exactement, ouais. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui n'est pas loin et on pourrait se voir, se rencontrer. J'avais trouvé ça chouette, donc c'est pour ça que je t'ai contactée, ouais. Effectivement.
Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, moi j'ai eu la chance de passer quelques jours en vacances, mais je n'ai pas la chance d'habiter là-bas, c'est vraiment un coin super beau.
Ah oui, c'est magnifique, ouais. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de touristes, mais ouais. On fait avec.
Voilà. Alors, parle-nous un petit peu de toi, si tu veux bien. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire ton parcours? Bien sûr, on s'est rencontrés aussi parce que donc, tu m'as contacté. Et ce qui m'a intéressé aussi en allant voir sur ton propre profil, c'est que tu es aussi l'auteur d'un livre témoignage qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La Barque Noire, aux éditions Les Presses
Les
du
Presses du
Midi.
Midi.
Ouais. Et donc, tu es auteur, et puis, est-ce que tu peux nous parler de toi aussi, ta vie en tant que maman, etc.
Alors, donc, je m'appelle Virginie et j'ai 46 ans. Je suis chef maquilleuse dans un opéra. Donc, je suis dans le milieu du spectacle et du cinéma depuis pas mal d'années. J'ai une véritable passion pour l'art, parce que je suis artiste peintre aussi et je suis musicienne, je suis harpiste. Donc, c'est vrai que tous ces milieux artistiques m'ont permis de m'épanouir dans ma vie et dans mon côté peut-être quelque part thérapeutique aussi. Mais je me rends compte maintenant avec toutes ces années. Et ensuite, je me suis retrouvée, donc, on va dire à 37 ans, après avoir 10 années de thérapie, j'ai choisi la méthode de la kinésiologie avec pas mal de méthodes comme le MDR, les constellations familiales, intergénérationnelles. Ça a été un peu un melting pot, en fait, de toutes de ces méthodes, on va dire, thérapeutiques qui m'ont permis, en fait, de pouvoir mettre des mots. De comprendre que j'étais victime de mon frère aîné pendant 10 ans, de 5 ans à 15 ans. Mon frère aîné avait 6 ans de plus que moi, donc dans lui en pleine conscience de ce qu'il faisait, évidemment, hein. Et j'ai mis énormément de temps à mettre des mots que j'étais une victime d'inceste, parce que finalement, à 5 ans, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on vit. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on s'aperçoit à l'adolescence que finalement, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles et qu'il y a un véritable problème. Et à ce moment-là, c'est trop tard et je m'enferme dans le mutisme le plus complet et dans cette honte, cette culpabilité, c'est-à-dire cet dénominateur commun à toutes les victimes d'inceste et de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler. C'est très compliqué d'être dans ce système de sidération et de paralysie. Et donc à ce moment-là, j'ai le courage donc de parler à mes parents à l'âge de 37 ans. Donc après 10 ans, 10 années de thérapie très très douloureuse, j'ai fait 10 ans, mais avec beaucoup d'espace parce que c'était très difficile de travailler évidemment sur ces traumatismes. Quand ma kinésiologue, dès la première séance, m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? J'ai compris que toute ma vie, en fait, j'avais traversé. Toutes ces colères, toutes ces incompréhensions étaient liées à ce traumatisme d'enfance et que finalement ce que j'avais vécu n'était pas normal et que je le payais toute ma vie. J'avais beaucoup de problèmes, on va dire, de comportement, d'addiction aussi, notamment sexuelle. C'est-à-dire que moi, comme on ne m'avait pas appris à respecter ce corps, évidemment à 5 ans, on ne l'a pas appris, et que mes parents finalement n'avaient pas fait ce travail d'éducation de nous dire, mais oui, en fait, c'est ton corps. À cette époque-là, on va dire que ce n'était pas ancré dans l'éducation, et c'est ça le problème aussi. Et donc à ce moment-là, je me suis servi toute ma vie de ce corps comme une arme, et peut-être pour me venger. Quelque part inconsciemment, je ne savais pas en fait, hein, et je me suis servi de ce corps-là. Et c'est quand j'ai pu poser ces mots-là quand j'ai dit je suis une victime et je ne suis pas coupable, c'est là que je me suis aperçue vraiment qu'il fallait que je sorte de tout ça. Et ça a été, je me suis réapproprié mon corps à 40 ans, quoi. Donc c'est pas très vieux. Et le fait d'avoir évidemment révélé à mes parents, ça a été un cataclysme familial, ça a été très très compliqué évidemment. Parce que quand on est parent et qu'on apprend que son propre fils et sa propre fille ont vécu ça derrière leur dos pendant 10 ans sans avoir rien vu, c'est absolument terrible. Donc, ils m'ont cru tout de suite, mes parents. Et puis, mon frère n'a pas nié. Donc, ça a été finalement facile pour moi, entre guillemets. Mais on va dire qu'il y a eu un deuxième épisode, qu'on a le courage de parler et que finalement, on ne comprend pas. Le côté victime, c'est-à-dire nos colères. On n'arrive pas à comprendre le statut de victime, en fait. Et il y a beaucoup de maladresse après du côté de mes parents, de mon petit frère. Ce sont des incompréhensions. Donc ça a été un parcours du combattant acharné que je raconte justement dans le livre parce que je veux vraiment parler de cette réalité du parcours familial. Je n'ai pas lâché, ça a été très 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 dur. J'ai beaucoup souffert, c'était comme un deuxième abandon évidemment. Même si mes parents me croyaient, hein, mais c'était de ne pas comprendre l'ampleur de tout ce que j'avais vécu dans mon enfance avait été impacté sur ma vie d'adulte et ma vie de maman aussi. Parce que quand j'ai décidé de donner la vie à mon fils aîné, j'avais 27 ans. J'ai eu une surprotection vis-à-vis de mon fils démesurée. Et je n'ai pas mis des mots à ce moment-là, je n'étais pas encore en travail thérapeutique. Je ne comprenais pas, c'est que je voulais le protéger à un point qui était assez incroyable. Et les gens trouvaient ça beau, mais en fait, il y avait des choses, des fêlures que je transmettais à mon fils. Et c'est vraiment avec la naissance de mon deuxième enfant que j'ai compris que j'allais transmettre des choses que je ne voulais pas. Parce que moi, j'avais eu des choses transmises par mes propres parents et que je voulais couper ce schéma de ne pas les transmettre. Donc voilà, le parcours du combattant avec mes parents, ça a été très, très compliqué. Je n'ai pas lâché. Et à ce moment-là, j'ai décidé de porter plainte contre mon frère. Je savais qu'il y avait prescription. Donc à ce moment-là, j'ai porté plainte en 2017 où les délais prescription étaient à 20 ans. Donc évidemment, j'ai été déboutée. Et j'ai eu un espoir qui a rené en 2018 quand la loi Schiappa est passée, que les délais de prescription sont passés de 20 à 30 ans. Et là, j'ai eu vraiment un espoir. Je me suis dit, cette fois, je vais être entendue par la justice, mais pas du tout, parce que les faits étaient déjà prescrits. Donc, de nouveau, j'ai été déboutée. Et là, à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille, j'étais à 7 mois. Et une colère est remontée, mais d'une façon inouïe et, on va dire, inexplicable. Évidemment, c'est tout qui ressort parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait ce travail thérapeutique pour en arriver là. Et c'est là que j'ai dit, ben, je ne serai pas entendue par la justice, mais je vais écrire mon histoire. Et j'ai décidé toutes les nuits d'insomnie parce que je n'arrivais pas à dormir à cause de ces colères incessantes. Et je savais que je portais la vie et j'ai dit, mais je ne veux pas donner ça à ma fille, je ne veux pas. Et j'ai écrit d'une traite en fait. Ça a été comme si j'étais dictée par là-haut. Ça c'est une histoire aussi assez énorme pour moi. Je l'ai écrit vraiment d'un trait et j'ai fini mon livre. J'ai beaucoup pleuré, ça a été très très difficile pour moi parce que c'était évidemment une libération, c'était un cadeau aussi pour moi. Et j'étais contente de l'avoir fait, déjà d'écrire ça pour moi, d'écrire pour mes enfants. Ma fille est sortie une semaine après, donc c'était comme deux accouchements. Pour moi rien n'est hasard évidemment. Et ensuite, cette petite fille qui est quand même le symbole de la réconciliation de ma petite fille antérieure, évidemment. Mais je ne veux pas aussi donner tout ce poids à cette petite fille parce qu'elle n'a rien demandé. Voilà, donc je veux juste lui donner les armes, qu'elle ne subisse pas tout ça et qu'elle ne transmette pas tous mes secrets familiaux, puisque la barque noire parle aussi de mon histoire de mon grand-père, qui était beaucoup de prédateurs et puis de l'inceste aussi. Alors, ma famille, du côté de mon papa, a rejeté évidemment tout ça. Ils ne veulent pas en parler parce que pour eux, c'est trop difficile de mettre des mots après tant d'années. Ils pensent que je ne suis pas légitime de parler de ça parce que je suis juste la petite fille, alors que c'est mon histoire familiale. Et c'est en ayant fait tout ce travail de la transgénérationnelle, je me suis rendu compte que de famille en famille, on transmettait ces secrets familiaux et que mon papa m'avait transmis cet énorme secret familial et que moi, je ne voulais pas le porter. Et comme par hasard, c'est arrivé dans notre propre famille, avec mon propre frère. Et maintenant, avec le recul, je me dis qu'il y a sûrement une relation entre mon grand frère et mon grand-père. Je cherche encore le lien, parce que pour moi, tout est lié aussi. Donc voilà, donc ça, c'était important de ne pas de transmettre ça à mes enfants. Donc la sortie du livre a été évidemment inattendue. J'ai eu la chance de rencontrer une maison d'édition très bienveillante qui a cru à mon combat. L'écho de mon livre a été extraordinaire parce que mon livre est sorti 15 jours après La famille agrandée de Camille Kouchner. J'ai eu beaucoup de chance de sortir pendant le mouvement MeToo Inceste. Ça a parlé à beaucoup de victimes, mais pas que. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens ça a résonné dans leur propre vie, leur propre enfance, leur propre comportement aussi du quotidien, dans leur façon de se comporter, dans leur travail, dans leur vie de couple, dans leur vie avec la relation avec leurs enfants. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cet impact-là. Et d'un coup, je me suis dit que, en fait, c'était juste comme un cadeau de la vie, cette marque noire, parce que finalement, c'était viscéral, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et que c'est une mission, en fait. Je sais que je suis sur cette terre pour cette mission-là et pour sensibiliser et former et parler de ce fléau, puisque c'est un fléau. Quand on voit les chiffres, c'est assez catastrophique. Donc, voilà. Et je me suis dit que finalement, c'était juste un déclencheur, un révélateur. Et grâce à ce cadeau de la barque noire qui a eu un joli écho, je me suis dit, voilà, maintenant, je suis faite pour cette nouvelle mission. Je prends à bras le corps.
Moi, est-ce que tu considères que le combat que tu fais, qui vient à la suite de ce livre, tu le considères comme une transmutation de tes épreuves, enfin de ton trauma, une transformation, ou est-ce que c'est autre chose pour toi?
Alors, en fait, c'est vrai que quand j'ai sorti le livre, déjà, j'étais déjà dans on va dire, un stade élevé déjà de ma thérapie, c'est-à-dire que déjà, je m'étais réconciliée avec moi-même, j'étais déjà vraiment dans une autre... je commençais déjà dans une forme de résilience. Après, l'écho et l'impact du livre et de tout ce que, finalement, les échos au quotidien que j'ai, avec tous les professionnels avec qui je travaille, c'est-à-dire les médecins, les thérapeutes, les psychologues, les pédopsychiatres, les brigades de mineurs, les avocats. En fait, l'écho que j'ai, c'est-à-dire cette prise de conscience que j'ai au quotidien, me fait accroître que je suis utile et que je comprends qu'il y a des choses à faire et que c'est... Quand je dis que c'est viscéral ce combat, c'est que ça me déclenche des émotions assez extraordinaires de voir qu'on est entendu. On est entendu et que finalement notre parole peut avoir aussi un écho. Et pour moi, je me dis que quand ce stade-là est dépassé, on va dans une autre dimension de la résilience. Et il y a des choses psychiques, physiques, émotionnelles qu'on ressent dans son corps qui sont assez extraordinaires. Et c'est ça aussi que je veux témoigner, c'est que d'un trauma qui est évidemment assez catastrophique pour toute une vie, on se rend compte que ces émotions-là, on peut les vivre on peut les recevoir avec bienveillance et se dire, mais finalement, on a le droit de les vivre, en fait, ces émotions. On peut être heureux et qu'on peut aider les gens et on peut donner de l'espoir. Et c'est vrai que ma plus grande victoire, en fait, avec ce livre, c'est évidemment le chemin résilience avec ma famille, avec mes parents et mon petit frère, où j'ai réussi à dépasser ces stades-là et où ils ont eu une véritable prise de conscience et surtout une part de responsabilité, puisque c'est le cas quand on est parent. Moi, mes colères sont parties. Je n'ai plus de colère contre eux, parce qu'ils n'ont pas vu pendant 10 ans. Il y avait des signes, il y avait des choses. C'est ça, ils ont pris cette part de responsabilité de dire on aurait pu voir, mais on n'a pas vu. Et moi, je ne veux pas les accabler parce que ce n'est pas du tout mon but. Et c'est de pouvoir dire maintenant, ben voilà, vous auriez pu voir. Maintenant, c'est bien de militer parce que c'est ce qu'ils font. Ils sont derrière moi, derrière mon combat. Donc, ils sont vraiment... c'est comme si c'était sorti de cette forme de paralysie, de cette sidération, comme une victime. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement traumatisant quand j'ai appris la nouvelle qu'ils ont mis leur cerveau en off et de se dire « Non, mais c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver dans notre propre famille. » Mais si, c'est arrivé. Donc maintenant, il faut dépasser ce stade-là et avancer ensemble. Et c'est ce qu'on fait. Et les échanges, maintenant, sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus constructifs. Et les rappels de souvenirs, justement, mettent des mots et à faire comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi, dans quel contexte, et mon propre papa, qui a évidemment sa propre histoire familiale avec son propre père, est sorti de cette forme de sidération et enfin a compris que toutes ces années, c'était que du mensonge et du déni. Et le déni, ça ne fait pas avancer les choses. Et du coup, ce déni est transmis à nos enfants, c'est-à-dire nous. Et moi, je transmets mes enfants. Donc, en fait, si on continue de génération en génération, et ben en fait on ne casse jamais ce schéma et on a ancré dans l'ADN et on transmet tout et on s'en sort pas. Donc c'est vrai que j'ai eu cette mission, il y en a qui le prennent mal dans la famille, voilà, ce fait de casser tout ce schéma familial et de pouvoir parler, d'avoir le courage de dire bon, mais stop, moi je veux plus en parler, ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire que l'histoire de mon grand-père, moi je le mets sur le tapis, de dire voilà, il a fait ça, ce ne sont pas des choses bien, mais ce n'est pas à nous de porter ça. Ce n'est pas à nous de continuer à porter ce qu'il a fait voilà, et à transmettre. Donc, évidemment, ça fait partie d'une forme de résilience. Et, c'est-à-dire que tout ce que je fais au quotidien, tout ce que je prône aussi au quotidien, tout ce que je milite au quotidien, me fait avancer dans une forme de, oui, de résilience, mais aussi de calme et de sérénité que je ne pensais jamais avoir. Et ça aussi, je veux témoigner en tant que victime et en tant que aussi symbole, entre guillemets, que... Il y a des belles choses, et malgré que ben, j'ai 46 ans, je pourrais me dire, bon, ben, ça y est, on n'en parle plus, on ferme le livre. Et non, pas du tout, parce que de toute manière, quand on est victime de violences sexuelles ou d'inceste, on vit tous les jours avec, malgré les thérapies, malgré on vit, mais on le vit différemment. Et c'est ça qu'on essaye de donner comme message. On vit différemment, qu'on peut se donner de l'amour à soi et se donner de la bienveillance, de dire mais non, voilà, tu as vécu ça et tu n'as pas à culpabiliser, c'était pas ta faute en fait. Et surtout que évidemment la plupart des victimes sont sous l'emprise de leur bourreau, et c'est ça aussi, de mettre des mots, d'expliquer ce que c'est l'emprise, parce que je me suis aperçue au quotidien que les gens ne comprenaient pas le mot emprise. Et pourtant, elle est propre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas dans les violences conjugales, dans le travail. C'est vraiment un fléau qui est catastrophique, parce qu'on ne s'en sort pas de l'emprise. Parce que la manipulation, c'est ce qui s'est passé avec mon grand frère, en fait. Il a eu, comme moi, j'avais un frère où on pense que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adule, quelque part, et qu'on pense bienveillant. Il a eu une forme de manipulation, il faisait beaucoup de jeux, de mise en scène. Donc moi, je pensais que ça se passait comme ça dans toutes les familles. Et l'emprise, c'était surtout de dire que... De ne mettre des mots en disant, mais finalement, c'est la normalité. Ouais. Et ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Mais ça, ils sont très, très forts au niveau de la manipulation, les prédateurs.
Et c'est d'autant plus vital, je pense, effectivement, de faire de la pédagogie, effectivement, autour de ce terme de l'emprise, ce concept, enfin, cette réalité, en fait. Parce qu'effectivement, quand on a été victime de cette emprise-là, par l'inceste notamment, quand on est enfant, ça se reproduit aussi très, très régulièrement, hein, très fréquemment. Après, bah, effectivement, on est plus susceptible d'être la victime d'un pervers narcissique, d'un harcèlement au travail. Voilà, c'est ça, on le voit aussi beaucoup. Enfin, moi, je le vois aussi dans les personnes que j'accompagne. C'est au départ, il y a ce noyau, ce trauma d'origine de l'inceste qui nous a enfermés dans cette emprise d'être tout le temps sous le joug de la personne, les plus proches quand il s'agit de l'inceste. Et puis après, ça se répercute tout au long de la vie, tant qu'on ne l'a pas travaillé, tant qu'on ne l'a pas conscientisé. Et donc, c'est pour ça que, comme tu dis, c'est très important de pouvoir mettre ce mot-là et expliquer surtout ce que ça engendre.
Ouais. Tout à fait. Et je pense que le devoir des parents, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, en faisant la sensibilisation dans les écoles avec une association, je me suis retrouvée à comprendre qu'en fait, les enfants n'avaient jamais entendu des mots comme l'inceste, comme les violences sexuelles. Ils avaient les yeux écarquillés quand on parlait que ça pouvait être son papa, sa maman, son grand-père, sa grand-mère, son oncle, son cousin. Ils disaient, c'est pas possible. Et en fait, le fait de poser des mots tout simples, les enfants, en fait, ont pris conscience que finalement, c'était de l'interdit. Et je me rends compte que le parent ne fait pas ce travail, en fait, à la base, alors que c'est le plus important, c'est de mettre en garde. Et encore une fois, je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas être obsédé, en parler tout le temps aux enfants. C'est juste une sensibilisation. Voilà, c'est-à-dire que dans la tête de leurs enfants, de mettre cette petite graine, de dire attention, c'est les parties intimes n'appartiennent qu'à toi, voilà. Et d'expliquer qu'on peut être témoin aussi, c'est aussi plein de situations, et de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir parler. Parce que les enfants ne parleront pas s'ils ne savent pas que c'est interdit.
Bien sûr.
Voilà, c'est tout simple, en fait.
C'est tout simple, mais c'est vraiment une question d'éducation, mais là, je dis d'éducation des parents, enfin, des adultes que nous sommes, nous, et en charge des enfants, parce qu'on ne nous l'a pas appris à nous. Et on n'en parle pas forcément de plus en plus. Et puis, dans ton cercle et moi aussi, par rapport à ce que je fais, Peut-être que ça se dit beaucoup plus que chez des voisins qui n'ont pas c'est pas un centre d'intérêt, mais qui ne sont pas dans cet engagement-là. Mais on n'en parle pas aux médias de moins en, enfin pas de pas peut-être de plus en plus, mais pas encore suffisamment pour que ben, aux 20h on en parle peu, par exemple, ou voilà, les médias principaux. Et du coup, ben, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Et surtout, je pense encore que c'est aussi une question de gêne. Ne serait-ce que quand on voit les petits mots que l'on donne aux parties intimes, ou quand on parle aux enfants, on ne dit jamais les vrais mots, quoi. C'est parce qu'il y a une sorte, on appelle ça de la pudeur quelque part, mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est un vrai problème d'éducation. On ne nous a pas appris à appeler un chat. Comme tu dis, il suffit de mettre les mots simples comme l'inceste, la criminalité, les choses qui sont interdites et celles qui sont appropriées, les limites. Et ça, il faut vraiment continuer. Donc, c'est vraiment important, tout ce qui est fait autour de ça, cette sensibilisation, cette pédagogie auprès des parents aussi. Et leur
Complètement.
montrer que c'est très simple à faire, en fait.
Il y a des livres très, très, très vraiment bien faits sur l'inceste, sur les violences sexuelles. Donc, ça peut déclencher des discussions entre l'enfant et le parent. Et justement, mettre des mots tout simples, avec des images aussi. Donc, du coup, l'enfant a imprégné, il aura compris. Voilà. Et c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le livre, en fait, en lui-même, est un outil. Je me suis aperçue avec ma fille, justement, qui a 3 ans, je me suis aperçue que les images restaient vraiment dans sa mémoire. C'est-à-dire qu'elle pouvait reparler d'un livre qu'elle avait lu 2 semaines auparavant, et elle va mettre des mots. Donc, je me dis que l'impact de l'image et du texte, mais surtout de l'image, reste imprégné dans le cerveau de l'enfant. Et il y a vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant pour les parents. C'est un outil pour moi qui est primordial et qui est vraiment important à explorer.
C'est sûr. Et je voudrais revenir un petit peu sur ton histoire, ton parcours, notamment en tant que maman. Tu disais que donc ta fille, elle a 3 ans aujourd'hui.
Oui.
Ton grand, il a 19 ans.
Oui.
Est-ce que, donc quand tu as fait ta thérapie, ton aîné, ton garçon, il avait 13-14 ans.
Oui.
Et donc, il y a eu tout ce temps qui s'est écoulé quand même. Est-ce que tu penses que dans ta façon de gérer les choses en tant que maman, il y a des choses qui ont vraiment radicalement changé? Ou est-ce que, enfin, comment, où tu en es toi maintenant aujourd'hui en tant que maman par rapport à ton histoire et les choses qui remontent et que tu as conscientisé?
Quand on est maman, enfin moi, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup, beaucoup de colère, en fait, qui était assez récurrente. Et je le mettais sur le compte de l'énervement, de l'agacement, voilà, que les enfants nous font sortir nos gonds, comme la plupart des enfants. Mais je me suis rendu compte qu'elles étaient assez démesurées et que c'était mon corps qui parlait. Et c'était ces colères avaient on va dire, un vrai visage. Et que c'était des choses que je n'avais pas résolues. Donc ça, je me rends compte maintenant avec le recul et je travaille encore dessus, sur ces colères-là. Ce sont plus des colères contre mes parents ou contre mon frère même. C'est vraiment des colères qui sont au fond de soi et qui d'un coup ressortent, ressurgissent d'un coup et que finalement les enfants n'ont pas à subir tout ça. Et ça, en tant que maman, ça a été vraiment un parcours du combattant pour moi et que je travaille encore dessus parce que je me rends compte que c'est des choses qui ne sont peut-être pas au fond de moi, finalement, si résolues que ça.
Tu sais,
Des réminiscences
ouais,
qui sont assez insupportables d'ailleurs,
c'est
parce qu'on
sûr.
se dit, mais non, c'est bon, j'ai fini mon travail, c'est bon, je ne suis plus en colère,
Et
je...
oui.
mais bon, bah, finalement, c'est inconscient.
Et justement, cette colère, on la partage, je pense, vraiment. Bon, moi, je la partage avec toi. Je suis thérapeute et je fais mon chemin. Hein. Je suis encore bien accompagnée et c'est très important, surtout quand on accompagne les autres. Mais je me rends compte, et je me rends compte, et notamment par ce que je partage sur les réseaux sociaux, par le biais du podcast au Maman au-delà de l'inceste et mon autre compte professionnel, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Et récemment, encore il y a 2 jours, une personne qui m'a contactée par rapport à cette colère. Et moi, je l'ai analysée aussi comme une colère que l'on déplace quelque part. En tout cas, moi, dans mon vécu, c'est ce que j'ai vécu avec ma première fille il y a 11 ans, enfin un peu plus, enfin, un peu moins maintenant, parce qu'elle était déjà, quand elle est devenue un peu autonome, à 2 ans, à marcher, à faire ses trucs, j'ai ressenti cette colère démesurée que j'avais vers elle et que j'avais aussi vers mon compagnon. Et je sentais vraiment que c'était plus que démesuré, c'était même, ça me faisait très peur. Et j'ai compris qu'en fait, je déplaçais la colère que je pouvais avoir sur mon père, sur mon oncle, enfin, sur mes agresseurs, il y a de ça. Et j'ai appris aussi, là récemment, en suivant une formation avec Stop Violence au Sexuel, qu'il y avait, enfin, je l'avais compris aussi avant, mais là je l'ai encore plus compris, qu'on a cette énergie meurtrière, en fait, qu'on télécharge quelque part de nos agresseurs. C'est aussi ce qu'appelle Muriel Salmona la colonisation, enfin, moi je le comprends comme ça. C'est qu'en fait, on télécharge toute la violence intérieure de l'agresseur au moment des agressions. Et ça ne nous appartient pas. Et quand j'ai conscientisé, intégré ça, ça m'a aussi beaucoup apaisée, beaucoup déculpabilisée, parce qu'effectivement, j'arrête pas de travailler sur ma colère avec tout plein d'outils, la sophrologie, l'EFT, etc. Et puis ça revient, tu sais, ça revient. C'est terrible, comme si on appuyait sur le bouton et pff, le truc, moi je dis à mes filles, attention, le dragon sort, mais ça c'est que depuis que j'ai conscientisé ça, que je peux dire, poser des mots, et m'éloigner, et puis effectivement, pas porter ma colère sur mes enfants, parce que ça, c'est surtout pas ce que je veux faire. Mais c'est vrai que ça a été révélateur pour moi de comprendre que ça m'appartient pas. J'ai pu prendre vachement de distance. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, ouais, de ça, le fait d'avoir téléchargé la colère de ton agresseur, de
ton frère. Ah, complètement. Ouais, complètement. C'est vrai que le côté inconscient, quand du coup, on réfléchit sur ce côté inconscient, on se dit, mais... Ah, on fait des thérapies, on fait plein de choses, on avance. Donc, pourquoi c'est encore là? Mais effectivement, c'est-à-dire que c'était toute cette emprise qu'on a eue pendant des années, tout ce côté, ce déversement, en fait, de ces énergies négatives, finalement, qui nous ont rendu mal à l'aise, qui nous ont rendu sales, qui nous ont rendu honteuses, tous ces sentiments qui sont propres aux victimes, et que finalement, comme tu dis, c'est qu'on déclenche avec un bouton, mais qui surgit mais d'un instant à l'autre, on ne comprend pas. Alors moi, j'en ai beaucoup moins, évidemment, mais c'est vrai que ça, ce sont des choses qu'il faut mettre des mots et s'apaiser avec soi-même, et de se dire, mais c'est un phénomène normal quand on a été victime et qu'on puisse se donner du temps aussi, du temps et de... Parce que souvent, on dit, ah, mais non, mais c'est trop long, la thérapie, ça ne va pas assez vite. Non, il faut aussi savoir se poser et se dire, bon, allez, je vais m'occuper de moi et je vais prendre du temps et de réfléchir pourquoi je suis en colère encore là et pourquoi je transmets ça à mes enfants et pourquoi mes enfants sont en colère. Moi, ma fille, malgré tout ce que je vis, elle a pas mal de colère. À 3 ans, je me dis « waouh ». Ouais. Donc, elle est assez directive. Elle a aussi changé le monde. Un petit peu peur. Donc, voilà. Donc, je me rends compte qu'encore, il y a des choses à régler, des choses à travailler. Et en fait, c'est le fait de prendre conscience qu'on a des choses à régler. Parce que c'est vraiment pas évident de se mettre face à soi-même, à son âme, et de dire « bon, allez, on va y aller ». Ça va être dur, on va souffrir, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Il y a justement un apaisement de l'âme, un apaisement du corps et de l'esprit. Et ça, ce n'est pas que des mots. C'est vraiment, là, moi, je peux en témoigner. C'est vraiment une sensation quotidienne maintenant de se sentir en paix avec soi-même et pouvoir transmettre maintenant, évidemment.
C'est ça, c'est tellement précieux. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse de t'avoir là sur l'émission, bah sur le podcast, parce que vraiment, je pense qu'il y a énormément de mamans qui déjà se sentent seules, qui se disent non, je ne suis pas normale. Ça, c'est important de savoir que si, comme tu l'as dit, c'est tout à fait normal. C'est ce qui nous est arrivé qui n'est pas normal. Et c'est tout à fait normal de vivre même 10, 20, 30, 40 ans après encore ces réminiscences, ces colères qui ne nous appartiennent pas, ou même celles qui nous appartiennent et qui sont tellement légitimes, hein, d'être en colère pour ce qu'on a vécu. Ça, c'est... Après, ça s'apaise, c'est possible de se dire que déjà, on n'est pas toute seule à vivre ça, à avoir vécu ça, et qu'on peut s'en sortir, on peut en faire quelque chose de très apaisé. Et en plus, cerise sur le gâteau, et qui n'est pas des moindres, comme tu le fais, de pouvoir c'est le sublimer. Et c'est ce que j'ai senti dans ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu dis que tu ressens des émotions et en plus, tu as le droit de les ressentir. Et ça, c'est aussi un truc qui me semble très important. C'est que quand on a vécu l'inceste, quand on a été objectivisé, je ne sais pas comment dire, un objet sexuel pour une personne, notamment très proche de nous, on se dit on a le droit de rien ressentir, en fait. Et surtout pas des émotions. En tout cas, moi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. À un moment donné, de me dire non, je dois surtout rien ressentir. Et puis, je n'ai le droit à rien, je ne mérite rien, pas de bonheur. Et dans ce que tu transmets, c'est aussi ça. C'est en plus, je transmets, je fais de la prévention, je milite, j'apporte aux autres. Et en plus, ça m'apporte quelque chose de magnifique aujourd'hui dans mon quotidien. Je vis des émotions incroyables. Et ça, c'est fabuleux. C'est, en plus, tu peux mettre du sens sur ce que tu as vécu. Et puis oui, tu as le droit de vivre des choses fabuleuses. Et puis, tu t'autorises à les vivre pleinement. Et c'est fabuleux. C'est un beau message d'espoir, je trouve, pour toutes les mamans qui sont isolées et peut-être désespérées.
C'est vrai que maintenant, avec le parcours que j'ai depuis 1 an et demi, je mets aussi des nouvelles émotions sur le fait que, et j'en entends beaucoup parler avec les témoignages, c'est de se dire que dans l'inceste, il n'y a pas de violence la plupart du temps. Ce sont des gens qu'on aime, ce sont des gens qu'on a confiance. Et la notion aussi de, c'est encore très tabou même en tant que victime, c'est-à-dire que même cette culpabilité au fond de nous qui n'est pas résolue et que chaque victime comprendra, c'est de se dire qu'on a pu prendre un plaisir et qu'on ne comprend pas parce qu'à ce moment-là, on ne mettait pas des mots. Mais en tant qu'adulte, maintenant avec une maturité sexuelle, on se dit mais comment on a pu vivre un plaisir avec son frère, avec son père, avec son oncle, avec son cousin? Pourquoi? Et c'est là la culpabilité qui rentre en marche. C'est catastrophique dans le cerveau de se dire mais pourquoi on n'a pas dit stop? Mais on ne pouvait pas puisqu'on ne nous l'a pas appris. Parce que ce qu'on vivait, c'était interdit. Et cette notion de se dire mais mon Dieu, on a pris du plaisir parce qu'il n'y a pas de violence dans l'inceste. Et ça aussi, c'est très révélateur et c'est catastrophique de se réapproprier, on va dire, de se dire mais on n'est pas coupable. On était juste une victime et qu'on ne comprenait pas ce qu'on vivait à l'instant T.
Ouais.
Donc, cette forme de sidération qu'on a, d'un coup, on a mis son cerveau en off et qu'on a dit, bon, bah, on vit le moment et puis après, on va continuer sa vie. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Hein.
Ouais.
On passe du coq à l'âne, en fait. Hein.
Et je pense que ça peut être aussi le lit, en fait, de toute cette colère qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne comprend pas. La colère qu'on retourne contre soi, en fait.
Complètement. Ouais, ouais. Et quand on arrive à justement à se réapproprier, on va dire, ce qui ne nous appartient pas, en fait, entre guillemets, dire non, 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 mais en fait, non, voilà, ce n'était pas moi, c'est cette petite fille, on ne l'a pas appris, donc c'est, voilà, il faut lui redonner un sens. Et là, d'un coup, ça peut justement apaiser pas mal de colère, je pense.
Oui. Oui, ouais, c'est sûr que ça demande du temps. Ça demande du temps. Et j'ai envie aussi de te demander par rapport à parce que j'ai parmi les personnes qui me suivent et qui m'ont envoyé des messages, il y a aussi beaucoup, puisque tu as partagé tout à l'heure, la souffrance de la solitude, même si c'est pas le cas pour tout le monde, mais même si on a été reconnu et que les gens, nos parents, notre famille nous dit bon d'accord, je te crois, comme tu dis. Après il y a le retour quand même de flamme quand une fois que les choses sont dites, et je le ressens aussi. On comprend pas, notre entourage ne comprend pas forcément quelles implications, quelles conséquences, l'ampleur des dégâts que ça peut avoir. Parce que moi-même, d'ailleurs, j'ai pas tout de suite compris. Hein, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre encore. Ah ben ça me vient de là. Pas uniquement, mais principalement de là. Et que notre famille ne nous comprend pas et peut pas soutenir des fois des comportements qu'on a aujourd'hui, qui ne comprennent pas comment ça a pu. Comment ça peut venir de si loin, si c'est une affaire qui vient de l'enfance. Toi, tu dis qu'avec tes parents, donc, ça a été un long parcours. Qu'est-ce que, selon toi, a fait qu'ils ont réussi, au bout d'un moment, à être plus soutenants avec toi par rapport à tout ça, à ces comportements, à ces conséquences que ça a dans ta vie, l'inceste que tu as vécu?
Je pense vraiment qu'à la sortie du livre, l'effet sur mes parents a été un effet boomerang et de vraiment, cette fois, comprendre l'ampleur du statut de victime. Et à ce moment-là, ils ont pu mettre des mots sur leur propre souffrance, parce qu'il faut quand même dire que les parents, c'est juste un cataclysme et une souffrance inouïe. Moi, mon papa m'a verbalisé en me disant « mais tu ne comprends pas que tous les jours, je culpabilise de ce que je n'ai pas vu. Pour moi, ce sera à vie. » Et à ce moment-là, ce jour-là, d'ailleurs, parce qu'on avait encore des colères à résoudre avec mon propre papa, et je lui ai dit « écoute, assis-toi ». Et je vais te lire un passage du livre. Il n'avait pas encore lu mon livre à ce moment-là. Et je lui ai lu le chapitre où je parle paradoxe. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai vécu, grâce à ce que mes parents m'avaient donné comme réservoir émotionnel, c'est-à-dire les images de vacances, des belles images, on était sur des voiliers, on voyageait énormément. Il y a plein de belles images, de belles musiques qui sont ancrées, qui reviennent inlassablement dans ma tête et qui m'ont aidée à pouvoir continuer ma vie et puis à pouvoir les surmonter. C'est grâce à tout ça. Et quand j'ai fini ce chapitre-là, j'ai refermé le livre et j'ai dit à mon père, j'ai dit « Papa, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais plus de ce monde. » Là, mon père a compris qu'il n'avait pas raté sa vie, il n'avait pas raté ce qu'il avait fait avec nous. Et ça, je voulais vraiment qu'il prenne conscience. Je pense que là, il a eu un déclic en disant « Bon, l'essentiel, c'est que j'aille mieux et que moi, je veux qu'on avance ensemble, qu'on soit une preuve de famille en tant que famille de victimes, qu'on peut en faire quelque chose de différent, qu'on peut essayer de porter un message, de se dire qu'on peut se réparer en famille. » Et c'est ce qu'on fait donc au quotidien. Donc, il y a eu vraiment comme un avant et un après. Ça a été très long, évidemment, le parcours du combattant, tout ce que je raconte donc, avant la sortie du livre. Mais c'est surtout ce que j'ai dit à mon papa. J'ai dit, mais pourquoi crois-tu que mon livre a autant d'écho? Il me dit, j'ai dit, faut que tu le lises, en fait. Il faut que tu comprennes que c'est du début à la fin. Mais la fin, finalement, il y a un vrai message d'espoir. Et c'est ça que les gens retiennent, malgré le trauma, malgré l'histoire qui est assez difficile à entendre et à lire. Mais je lui ai dit, c'est ça que je veux dégager, c'est que je vais bien, je vais très bien, et que j'ai envie d'en parler maintenant, et j'ai envie de témoigner. Et là, je pense que mes propres parents, ma maman a fait un énorme chemin bien avant la sortie du livre, qui, elle, a compris les colères, elle a mis des mots, elle comprenait vraiment bien les mécanismes des victimes. Donc elle a eu une autre approche.
Ma maman, elle a fait un véritable chemin, en fait, on va dire, avant la sortie du livre. Elle a lu beaucoup de livres, de témoignages pour comprendre les mécanismes, les colères qui étaient évidemment récurrentes chez les victimes. Et elle a vraiment pris une part de responsabilité, évidemment, dans notre drame familial. Et surtout, c'est qu'elle s'est dit, mais moi, si j'avais pu avoir tous ces outils, j'aurais pu parler à mes propres enfants et j'aurais pu mettre des mots et puis j'aurais peut-être pu voir. Donc, je pense que c'est son chemin maintenant de résilience, de pouvoir militer et de pouvoir crier au monde entier, de dire « Non, mais attention, les parents, en fait, vous avez un devoir à faire, c'est que vous avez des choses aussi à faire et à transmettre. » Et elle a pris ce combat à bras le corps, donc elle est derrière moi, derrière tout ce que je fais. Et mon papa, c'est pareil, c'est que cette fois, lui, il a choisi de se positionner vis-à-vis de sa propre famille, donc par rapport à ce déni familial, et de dire « Non, mais attendez, moi je me réveille, même si j'ai 78 ans, mais maintenant, c'est à nous de sortir de ce déni, de se dire que ce qu'on a vécu pendant toutes ces années, ces mensonges, ce n'était pas à nous de les porter. » Et que maintenant, il est derrière moi, derrière mon combat, et me dire on a le courage de parler haut et fort, le fait de le porter aussi sur les médias, que mes parents aient le courage de parler, je trouve ça formidable. Ouais. Malgré avec tout ce qu'on a vécu, et que de dire que on peut s'en sortir et qu'on est une famille unie et heureux, on est heureux ensemble.
C'est très beau et vraiment, je t'écoute et j'ai des frissons dans tous les sens. C'est magnifique. Ça donne beaucoup d'espoir et en même temps, je me mets à la place aussi d'autres victimes qui n'ont pas encore, parce que je pense que c'est possible quand même, vraiment, j'ai envie de dire que c'est possible, qui n'ont pas encore cette possibilité dans cet accompagnement, cette harmonie avec leur famille, même ne serait-ce que le soutien. Il y en a même qui sont complètement rejetés, hein, ça c'est une réalité aussi. Mais ce que j'entends, c'est que quelque part, bon, tu as été portée par le livre, ça a été un très beau véhicule pour pouvoir communiquer à tes parents par ton témoignage, donc tu as eu cette force déjà, et peut-être que c'est quelque chose qui t'a été envoyé, comme tu as dit, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, et à partir des médias, à partir de ce média-là, tu as pu, ils ont pu prendre plus conscience, donc c'est peut-être un message aussi à faire passer aux autres femmes, que on peut aussi utiliser peut-être les médias, peut-être ce qui sort pour pouvoir être comme un support pour faire comprendre à notre entourage, voilà ce qui se passe, moi je vis ça, ça peut être une façon aussi de communiquer là-dessus. Mais je pense que si d'une part, il faut d'abord pouvoir s'apaiser pour pouvoir ensuite parler avec nos proches. Et puis aussi, c'est cette force de caractère qui te caractérise aussi, hein, cette persévérance, t'as pas lâché. Je pense que c'est ça aussi qui et c'est pour ça que c'est important d'avoir travaillé d'abord sur ces blessures. Il y a un chemin. Il faut pouvoir prendre conscience que ça prend du temps et s'accrocher. Parce que quand on est dedans encore, quand on est encore dans l'emprise du trauma, moi j'appelle ça l'emprise du trauma, quand on est encore dans la souffrance de notre stress post-traumatique, de la mémoire traumatique, ou même d'être sous le joug de l'amnésie traumatique, c'est pas si facile que ça d'avoir cette assurance, cette persévérance et de se dire. Si à un moment donné, je vais réussir à convaincre, s'il ne s'agit pas de convaincre, à avoir ce soutien de ma famille, parce que c'est tellement important, justement, ce soutien-là.
Ça, c'est certain que beaucoup de victimes sont rejetées par la famille parce que finalement, après tant d'années, parler, ben, pourquoi en parler maintenant? Ben, ça va, c'était du passé. Pourquoi t'en parles maintenant? C'est toujours les mêmes phrases. Hein, et pourquoi t'en parles? Voilà, tu vas faire du mal à la famille, tu vas faire exploser la famille, ça sert à rien, c'est bon, tu vas bien. Ben non, on va pas bien en fait, on va pas bien du tout en fait. Et donc on se sent encore culpabilisé par la famille. Et beaucoup de gens évidemment ne croient pas à la victime, pensent qu'ils affabulent évidemment, comme le nombre de procès qui tombent en cascade en ce moment. Voilà, ce sont les victimes qui sont les menteuses. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est que je me dis quel est l'intérêt pour la victime de s'exposer, notamment médiatiquement? Quel est l'intérêt de se mettre comme ça en lumière quand on a vécu un viol? Je ne vois pas l'intérêt. Déjà, il faut avoir le courage d'en parler, il faut avoir le courage d'en parler dans les médias. Et c'est quand même une violation d'intimité, entre guillemets, d'exposer sa propre famille, ses propres enfants. Donc ça, il faut en avoir tout à fait conscience. Mais on sait que ce message est tellement porteur et tellement important aussi. Pour moi, le fait de pouvoir parler et d'avoir tous ces témoignages, c'est de comprendre que les victimes se sentent moins seules et qu'elles ont besoin de ces liens et elles se rattachent à quelque chose que finalement elles appartiennent à une famille où on les comprend, où elles peuvent mettre des mots. Et pour moi, c'est primordial de faire ça, vraiment, vraiment.
Oui, parce que c'est vraiment l'inceste, pour moi, c'est un traumatisme sexuel, bien sûr, traumatisme corporel, mais c'est surtout un traumatisme le traumatisme ultime de la confiance, de la trahison suprême, quoi. C'est un traumatisme du lien, quoi, surtout, surtout. C'est ce que ça a de spécifique par rapport à, même s'il n'y a pas de hiérarchie, hein, dans ma façon de voir les choses, mais c'est spécifique à toute autre violence sexuelle. C'est vraiment le Après, l'impossibilité de créer un lien avec sérénité, en tout cas le temps tant qu'on n'a pas pu s'apaiser, de pouvoir, et encore, moi je trouve que je pense que c'est toute la vie qu'on travaille là-dessus, et qu'il y a peut-être des résidus qui restent encore, hein, dans nos façons d'interagir avec nos très proches. Et c'est aussi une question que je voulais te parler parce qu'une chose qui m'a beaucoup frappée dans ton livre, hein, parmi d'autres, parce que c'est vraiment un livre, je le recommande chaudement parce que c'est un témoignage et c'est comme tu disais, c'est le témoignage de l'espoir. Et il y a un truc qui m'a vraiment frappée, c'est cette volonté viscérale que tu as de faire en sorte que tes enfants ne soient plus, en fait, soient le plus épargnés possible. Ça, je pense que toute maman, enfin, en général, on fait en sorte que nos enfants soient le plus épargnés possible, même si on ne peut pas les protéger de tout. Bon, en tout cas, tu le dis à un moment donné sur ton livre, c'est je mets tout en œuvre pour faire en sorte que mes enfants ne vivent pas, ne soient pas trop impactés. Tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs par rapport à ta fille, toute la colère. Comment est-ce que toi, tu es arrivée, comme tu arrives encore aujourd'hui, à trouver cet équilibre entre ta responsabilité de maman et cette, ce qu'on peut appeler des fois l'hyperprotection, l'hypervigilance ou l'hypovigilance, hein, des fois, justement, les mamans qui restent encore dans le déni même de ce qu'elles ont vécu. Comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre entre l'hyperprotection, l'hypervigilance, l'hyperintrusion et puis laisser les choses être aussi, tes enfants vivre?
Ça, c'est pas évident, justement, parce que quand on a une fille, on a une forme de surprotection qui est assez démesurée, parce qu'on n'a pas envie qu'elle subisse la même chose que ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que quand on la change, quand elle est bébé, on ne supporte pas un œil, on pense qu'il y a des yeux malveillants autour, de pouvoir qu'on, d'un coup, on puisse regarder les parties intimes de son propre enfant, c'est juste insoutenable, ça. Et malgré tout le travail que j'ai pu faire, donc c'est... Ce sont des choses en fait qu'on ressent et qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, je culpabilise de vivre ça et de penser ça. » C'est vraiment normal de penser ça parce que forcément, on a une forme de surprotection qui est innée et je pense qu'il faut se donner beaucoup, beaucoup de bienveillance et de se dire « Bon, voilà, alors on met des mots dessus, on dit voilà, maintenant il faut pas le transmettre à sa fille. Il faut trouver ce juste milieu en disant il faut garder cette foi, ne pas trop en donner parce que justement elle a pas apporté ça, ma fille, elle a pas apporté mes peurs, puisque je fais tout ça, justement je mets tout en œuvre pour pas qu'elle porte mais oui, c'est ces formes de peurs qui sont assez insoutenables que j'ai traversées toute ma vie en fait. Et je ne veux pas qu'elle les vive au quotidien. Donc, ce n'est pas évident de trouver ce compromis sur le fait qu'être parent et de ne pas transmettre ce qu'on a vécu est un vrai parcours du combattant. Mais ça peut, on peut le faire. On en est les preuves, toutes les deux. Et c'est vrai qu'on travaille tous les jours, au quotidien encore.
Ouais, c'est ça, on en est l'épreuve toutes les deux, c'est vrai, et c'est en même temps un chemin qui continue, parce que ta fille a 3 ans, ton fils a 19 ans, mais ton fils a 3 ans, et c'est vrai que moi, voyant que j'ai 5 ans, des enfants qui ont 3 filles qui ont 5 ans, 8 ans, 11 ans, je vois que c'est pas les mêmes rapports par rapport aux différentes tranches d'âge, et que ça chemine sans arrêt, et que j'ai encore plein de choses à apprendre, parce que l'adolescence, elle est là, elle est tout près, ma fille est née, elle commence à avoir des formes de femmes, et là aussi, ça réveille des petites des peurs que j'avais déjà, hein, hyper sensibles déjà avant, mais maintenant, c'est concret. Enfin, ça a toujours été concret, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore plus de tentations à avoir très, très peur, mais donc, c'est chouette aussi de voir que je m'apaise avec ça, donc c'est possible, c'est possible.
Je pense qu'il y a des réminiscences, évidemment, qu'on ne pourra jamais oublier. Elles sont de moins en moins fréquentes. Moi, j'en ai beaucoup moins, évidemment. Tous ces flashs aussi récurrents qui sont pour chaque victime. Mais par exemple, je vais te donner une anecdote qui s'est arrivée il y a très peu de jours. Je me suis retrouvée... donc, c'était tard le soir, et ma fille pleurait, donc je suis allée la voir dans son lit, et enfin, je me suis rendu compte que sa couche était mouillée. Donc en fait, je l'ai changée sans qu'elle se réveille. Et le fait de l'avoir nue, m'a touché un point. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, c'est moi, je me suis retrouvée, moi petite, et me disant, mais j'étais vulnérable comme ça, et qu'en fait, on a abusé de moi, et voilà, ça part de là parce que c'est un enfant en pleine innocence et qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Et ça m'a transpercée, je me suis mise à pleurer parce que c'était difficile pour moi. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut se donner beaucoup de bienveillance, de dire qu'on va les vivre quand même ces moments-là et que c'est normal. Mais ils sont beaucoup moins fréquents et on arrivera au fur et à mesure à que ce soit moins douloureux. Voilà.
C'est tellement important ce que tu dis. Quand tu parles de bienveillance, moi, je vais jusqu'à se donner beaucoup d'amour. C'est tellement important qu'on puisse se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On parle beaucoup de l'estime de soi, de l'amour de soi. Mais là, concrètement, encore plus, de se donner tant de tendresse et d'amour pour ce que l'on vit, pour ce qui ressort encore, qui nous semble encore difficile et douloureux. Et ton anecdote, encore une fois, elle m'a transpercée dans tout le corps parce que je le vis aussi quotidiennement, hein, de voir que aussi nos enfants, ils sont tellement vulnérables, mais c'est tellement important de se donner tout cet amour pour pouvoir s'apaiser, pouvoir s'accompagner, être là avec nous-mêmes, pour pouvoir être beaucoup plus dans cette transmission justement de toutes ces choses-là, de protection de nos enfants, et de ne pas aller dans l'extrême inverse qui serait la surprotection aussi, et qui va aussi, qui peut potentiellement être très nocif aussi pour nos enfants en fait.
Complètement. Alors là, c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre aussi, de dire que... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais tu parles que de ça à longueur de journée. » Parce que c'est, évidemment, c'est mon combat au quotidien. Mais je dis, mais moi, ma fille, déjà à 2 ans, elle disait « Ah, mais c'est à moi, on ne touche pas. Mmh. » Mais avec des mots finalement assez... c'était très banal, hein, mais je ne suis pas obsédée, je n'en parle pas tout le temps, pas du tout. Elle a compris, elle a fait une prise de conscience. Mmh. Et après, peut-être qu'au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va comprendre que sa maman, elle est dans une forme de militantisme qui est importante pour elle aussi. Parce que voilà, c'est une petite fille qui va naître dans une société où on fait pas de cadeaux et puis qu'il y a beaucoup de prédateurs dans les alentours, dans la vie quotidienne. Donc c'est de lui donner ses armes là pour qu'elle comprenne que elle n'est pas un objet sexuel, que son corps lui appartient et que elle n'a pas à vivre ce que sa maman a vécu. Voilà. Et c'est ça. C'est tout simplement d'en parler. Alors évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le mot parler tout simplement, c'est pas évident. Mais finalement, je me rends compte qu'au quotidien, le discours le plus simple marche et c'est beaucoup plus porteur que toute autre action, en fait, je trouve.
Oui, c'est sûr. C'est pas si facile à faire, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, Virginie, merci pour tous ces précieux messages que tu nous as offerts généreusement. Est-ce que, avant de conclure, tu voudrais partager une chose ou quelque chose de très important qui pourrait aider les mamans qui se sentent seules et qui sont peut-être pas forcément dans l'espoir que nous vivons aujourd'hui, nous voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose, un message à leur transmettre?
Évidemment, je ne vais pas revenir à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... quand on se donne, évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, se donne de l'amour, de la bienveillance, qu'on puisse se poser et se dire que ce qu'on a vécu, ce n'était pas normal et que nous ne sommes pas coupables, et de pouvoir peut-être se nourrir de témoignages, de lectures, de podcasts, voilà. Et plus on justement s'enrichit en fait de ces témoignages, de comprendre que finalement on peut aller au-delà de sa propre douleur, de son propre trauma, de pouvoir se poser, de se dire bon allez, je vais travailler dessus, je sais que ça va être difficile, ça va être très dur, il y a des fois où on n'aura pas envie d'y aller, il y a des fois où on fera des marches arrière, après on avancera et on reculera, ça fait partie du parcours des victimes, mais que finalement la lumière est souvent très très belle à la fin. Comme j'ai quand même beaucoup de témoignages où il y a des gens qui sont des survivants, des survivantes, parce qu'il y a aussi des hommes évidemment qui ont été victimes. Et je me dis que le message évidemment que je donne, qui est un vrai mais véritable message d'espoir, qui est pour moi primordial et dans ma mission, parce que c'est ce que je veux donner aussi comme on va dire comme témoignage, et puis en tant que parent victime aussi, de pouvoir se dire qu'on peut y arriver avec une famille, ça vaut le coup de ne pas lâcher, de leur faire comprendre une part de responsabilité, de leur faire comprendre, voilà, je ne suis plus en colère contre vous, mais vous avez cette part de responsabilité que peut-être vous n'avez pas vue, ou peut-être que vous avez protégé le prédateur, ou parce qu'il y a aussi ça aussi, c'est ça qui est compliqué. D'essayer de donner des pistes nos parents, ou avec des lectures, avec des témoignages, des films. Le film Les Chatouilles d'André Bescon est très, très, très bien fait, justement, sur le côté de l'emprise, qu'on ne parle pas. Voilà, il y a des supports, qui peuvent nous aider en tant que victimes, évidemment avec un vrai travail thérapeutique qui est pour moi primordial, parce qu'on ne s'en sort pas vraiment seul, c'est pas vrai. On a besoin justement d'avoir cette petite bienveillance de la thérapeute, de se dire mais qu'on n'est pas coupable. Et pour moi, je pense qu'il y a une multitude de choses à faire et que ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup aussi de souffrir un petit peu, de remettre des mots sur les traumas, mais qu'on en ressort avec de tellement de bonnes choses. Et c'est un apaisement du corps qui est absolument inouï et que ça vaut le coup de le faire, vraiment. Voilà, c'est ce message du sport que je veux donner.
Merci beaucoup, merci du fond du cœur Virginie. C'est vraiment ça, c'est ce que je retiens, c'est qu'effectivement c'est tellement important de pouvoir s'apaiser, hein, parce que sinon la colère, dans la colère on n'arrive pas à communiquer avec nos proches et donc on peut pas avoir leur soutien quelque part.
Donc, complètement. Ouais.
Vraiment, vraiment une immense gratitude à toi pour tout ce partage, pour ce moment qui a été vraiment lumineux pour moi, pour ton livre. Et d'ailleurs, tu parlais des supports, mais tu m'as expliqué tout à l'heure que ton livre, tu étais en train de l'adapter, c'est vrai ?
Oui, je suis en train de travailler dessus, donc je voudrais l'adapter au cinéma. Donc, c'est surtout de parler évidemment de l'histoire de la barque noire, mais de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le après. Et c'est ça, de pouvoir donner ce côté très positif et cette forme de résilience. Je voudrais vraiment que ce film, si évidemment il voit le jour, ce serait extraordinaire, mais j'y crois fort parce que de toute manière, tout ce que je vis est assez extraordinaire. Donc, pourquoi pas ? Et voilà, de pouvoir transmettre cette force et cette lumière pour chaque victime qu'ils peuvent faire, on peut vivre différemment avec. Vraiment.
Génial. J'ai hâte aussi, j'espère que... Enfin, j'en suis sûre, c'est clair, que ça va... à un moment donné, ça va sortir et ça va faire un très beau support pédagogique de plus, et en tout cas d'espoir pour les victimes. Merci beaucoup, Virginie, pour toutes tes actions, pour ta présence ici.
Merci à toi pour cet échange très, très agréable et très instructif aussi.
à très bientôt.
À très bientôt, Solange.
Merci pour ton écoute. J'espère que, comme moi, tu as été galvanisé par l'enthousiasme engageant de Virginie et que cela t'a inspiré de l'espoir pour ton propre chemin comme pour l'avenir de nos enfants. Merci d'avoir écouté ce podcast « Maman au-delà de l'inceste ». Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites soutenir ce programme, n'hésite pas à le faire savoir en mettant des pouces, des petites étoiles ou bien des cœurs en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et n'hésite pas surtout à en parler autour de toi et à le partager. Car plus on parlera de ce sujet difficile de l'inceste avec luminosité et espoir, plus le tabou pourra être brisé avec efficacité, plus nous pourrons protéger nos enfants et réhumaniser notre société. Je serai aussi ravie d'entendre ou de lire tes commentaires, tes retours, que tu pourras me faire passer par message privé ou bien en commentaire sous l'audio. Et si tu te sens l'âme, le cœur et l'envie de contribuer à enrichir ma voix en témoignant toi-même de ton parcours lumineux de maman au-delà de l'inceste, n'hésite pas à me contacter. Et je me ferai un immense plaisir de t'accueillir dans cette émission.